bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Agnès Surstel, Daniel Morin,
bonjour.
Tom Villa,
bonjour.
Alexis Le Rossignol, Tanguy Passereau sera là tout à l'heure, Leïla ne saurait tarder, nos invités sont Andréa Bescon et Alex Métayer.
Bravo.
J'ai dit Alex,
Eric.
Non, mais ouais. Forcément, tu sais.
Tu vas te faire engueuler.
Non, mais non, c'est pas non, ça.
Tu vas pas te faire engueuler par moi, mais par elle.
C'est qu'il y a deux secondes. On va pas dire quoi, mais il y a deux secondes, il est en train de dire, il racontait une histoire en disant, je vivais chez mes parents. Et là, j'ai eu un flash, pardon. Et c'est mon âge aussi. J'ai d'abord connu ton père avant de te connaître. Voilà, c'est tout. Et j'ai même connu Michel Drucker avant toi. Bref, Éric Métayer et André Bescon sont présents pour nous parler de plein de spectacles qui arrivent à la fois. Évidemment, il y a les chatouilles qui se poursuivent, qui continuent. Ouais. La belle histoire se poursuit.
Mmh. Ouais. Mais avec une autre comédienne.
Comédienne danseuse qui s'appelle Déborah Moreau. On a d'abord fait une grande audition. On a reçu beaucoup de très belles artistes. Et puis, il y a une évidence sur Déborah. Et donc, ne s'est pas posé la question.
Alors, c'est délicat quand on choisit quelqu'un pour se remplacer soi-même. Il faut qu'il y ait une ressemblance. Il faut qu'il y ait, au contraire, une totale différence et un atout supplémentaire. Ou qu'il y ait une logique, presque l'ADN, quoi.
Non, c'était l'énergie. Il fallait qu'on retrouve l'énergie. Il fallait trouver cette chose-là.
Voilà. Et
danseuse.
Oui.
Si on avait trouvé la comédienne, comme disait d'ailleurs quand on faisait les castings, on disait, si on avait trouvé la danseuse, la comédienne qui en l'espace de 3 mois et demi de travail peut danser comme une danseuse qui a fait tout un parcours de conservatoire et tout, je pense qu'elle se tirait une balle dans la tête.
Tout ça pour rien.
Très bon enchaînement avec cette expression pour passer à l'église.
Ah, c'est nul.
Ah, il a pas de pitié. Ça s'appelle rebondir. Ça s'appelle rebondir.
Déglutis, ça ira mieux. Alors là, vous êtes tous les deux à la mise en scène.
Oui.
Vous allez nous expliquer comment on travaille à deux sur une mise en scène. À l'écriture également ?
Oui, tout à fait.
Tous les deux. Ouais. Isabelle Otero et Géraldine Martineau en sont les interprètes de ce nouveau spectacle. C'est une maman qui parle, entre guillemets, qui se parle à elle-même et qui parle à sa maladie dès le début. Donc il y a des apartés, des soliloques comme ça avec la maladie. Puis arrive sa fille qui est une infirmière.
Ouais,
c'est Nina et Aline.
Elle travaille dans les ONG.
Voilà. Et on est baladé entre la réalité, l'imaginaire, même jusqu'au fantasme, puisque Monica Bellucci ou autre, Laure Manaudou, sont présentes dans l'imaginaire et dans les fantasmes, puisque c'est ça de la maman, d'Aline. Et on est aussi dans les méandres de la maladie et finalement de la schizophrénie, de la manière dont Aline va commencer à perdre la boule. Bon, envoyer une expression triviale.
Très jeune.
Elle devient pas totalement folle. Elle est simplement dévorée de l'intérieur par la maladie.
Dégénérative. Donc évidemment, le cerveau fonctionne.
C'est pas vraiment Alzheimer, mais c'est pas loin.
Non, c'est pas Charcot non plus.
Supranucléaire progressive, ça s'appelle.
Voilà.
C'est relativement rare, ça existe. Il y a assez peu d'études dessus, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette maladie, puisque justement Aline qui va démarcher, qui va se dire moi je veux pas attendre la phase terminale pour pouvoir m'extraire de cette vie qui n'a plus d'espoir, je veux pouvoir partir avec ma dignité, et donc du coup elle va quand même recherchée par la Belgique, par la Suisse, et on lui dit, mais vous savez, il y a peut-être un espoir avec cette maladie, on n'a pas à tout chercher, et elle pose problème.
Alors, il faut dire, le sujet est grave, puisque c'est sur le...
Donc après les châteaux, vous voulez passer à quelque chose de léger.
On s'est dit, on va se prendre un truc quand même plus protégé, mais
c'est vrai qu'il y a des phrases à la fois choquantes, c'est-à-dire, je préférerais avoir un cancer généralisé ou un cancer de la prostate pour partir. Ce à quoi sa fille lui répond, mais il n'y a que les hommes qui ont une prostate.
Les
hommes ont plus de chance. Donc c'est vrai qu'on rit de situations extrêmement graves. Ça fait partie aussi de votre...
On est incapable. Au début, on s'est dit, c'est peut-être notre forme d'écriture, mais en réalité, je crois que c'est notre forme de vie. On est incapable de ne pas mélanger le rire et la douleur. cœur, et parce que d'abord la vie est faite de ça. C'est donc on avait besoin de le faire. Et puis d'abord c'est
comme,
aussi
comme, une espèce comme une espèce d'exutoire.
Oui, et puis surtout en fait, de l'aération, c'est une fenêtre qui s'ouvre.
On ne rit pas du sujet, on rit avec les personnages, on rit avec leur situation, les situations qu'elles rencontrent, et finalement on ne rit ni de la mort, ni de la maladie, ni d'une relation compliquée entre mère et fille, ou le fait que en fait ça parle plein de choses, le spectacle, puisqu'on parle aussi de cette relation, ces relations familiales qui sont hyper complexes, où on sait qu'on s'aime mais on n'arrive pas à se parler, et on n'arrive pas à se comprendre.
Et alors l'état par lequel passe cette maman, c'est-à-dire que oui, elle perd la boule, il y a des rapports avec sa fille assez particuliers, la musique est très présente d'un coup, puisqu'elle perd la boule, elle perd la mémoire. Moi je pense quand vous parlez de TAU,
la protéine
TAU, c'est pour ça que je pensais à Alzheimer, parce qu'elle fait partie aussi de ce qui pourrait soigner Alzheimer, cette protéine. Et le karaoké, se souvenir des paroles d'une chanson est un exercice.
Et allez, il replace qui... toujours en fond. Et regardez France 2. C'est bon pour la maladie, c'est bon pour le moral, c'est bon au camping, c'est bon à l'hôpital. Il est magnifique.
C'est ça qui fait un prank, tout le monde joue avec la mort, je crois, la
semaine prochaine. Mais ce mec, c'est un génie.
Donc, il y a un karaoké de mémoire, il y a Femme libérée, Voyage, enfin, il y a des chansons qui sont comme ça évoquées.
C'est une femme qui s'accroche à ses souvenirs, à ses bribes de souvenirs, et au beau moment, le médecin lui dit, accrochez-vous au beau moment de votre vie, accrochez-vous à ça, et là,
elle est si
fragile, elle est une femme libérée, c'est pas si facile.
Quand on choisit cette chanson, c'est pas par hasard non plus.
Non, on est passionné des années 80.
Déjà, puis Femme libérée. Mais ce qu'on a voulu aussi, c'est que la maladie fait que ça lui ouvre des portes qu'elle n'avait pas soupçonnées.
Ce n'est pas une pièce féministe, mais c'est une pièce qui dénonce les dictats féminins de cette société. Du coup, cette femme qui a 50 ans, qui est vraiment dans la fleur de l'âge, se rend compte quand même qu'elle est passée un peu à côté de ses orientations naturelles. C'est-à-dire que, par exemple, elle a cette maladie qui... En fait, ça la pousse dans sa vérité. D'un seul coup, elle se dit, mais merde, en fait, j'aime les femmes, quoi. Mmh. Et donc, elle fantasme sur Monica Bellucci.
Vous formulez d'une manière beaucoup plus élégante, dans la pièce.
Oui, bien sûr.
Là, on a la radio,
avec l'alcool. Non, mais si vous voulez vendre la pièce, allez-y, mettez des trucs crus, parce que sinon...
C'est bien ce qu'on se dit.
Ouais. Dégueulasse, un petit peu.
Isabelle Otero et Géraldine Martineau, on va parler également du casting, du choix de ces deux comédiennes. Déglutis, ça ira mieux. Ça sera du 5 au 28 juillet au Théâtre du Balcon à 22h30. Là, on parle d'Avignon, évidemment, qui est aussi l'endroit où les chatouilles. On va parler dans quelques instants, mais d'abord... Et là, vous avez un avantage, c'est sans Leïla que vous avez attaqué.
The Last.
Dernier
interro de l'année, les points qu'on triple.
Est-ce qu'on ne compterait pas que celle-ci, d'ailleurs ?
Ça t'arrangerait ? Ouais. C'est moche. Un journaliste a fait une remarque qui a conforté Andréa Bescon dans son choix de devenir comédienne en disant qu'elle était une comédienne qui, quoi ?
Ratée.
Non.
Née. Qui faisait rire,
qui dansait bien.
Qui donnait qui envie de pleurer.
Ouais, exactement. Qui dansait assez bien. C'est la phrase, la formule.
Il avait pas l'air d'y croire quand il a
sorti. C'est une assez bonne réponse.
Ouais. Non, parce que je trouvais ça con comme réponse, et bon, bah, a priori.
Mais ça n'arrête pas Nagui.
Ce genre de réponse, c'est pour toi.
André Bescon est une comédienne qui danse assez bien. Et là, vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je suis comédienne.
Il est pas trop mal, votre film.
C'est le truc, faut que j'aille dans la danse. Je crois que d'un seul coup, j'ai réalisé que peut-être que j'avais un avenir.
Pour être comédienne. En fait, vous aviez un sentiment de légitimité à devenir comédienne?
Non, mais de toute façon, la danse m'a permis de raconter des histoires. J'ai jamais été une danseuse, entre guillemets, esthétique. La chorégraphie pour la beauté chorégraphique n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai toujours aimé interpréter des personnages à travers des chorégraphies ou à travers le corps, mais j'ai toujours été plutôt dans l'émotion et l'expression d'un sentiment que la beauté de la ligne.
Est-ce que la danse, comme différentes formes d'art, je pense à la peinture, est-ce que on ressent une émotion quand on voit un spectacle, quand on voit une toile? Est-ce que cette émotion est forcément la même que celle de ce que le peintre a voulu que l'on ressente, ou de ce que la chorégraphe a voulu exprimer?
C'est tout à fait subjectif, tout ça. Heureusement, hein, c'est ça la liberté de l'art, c'est qu'on ressent tous quelque chose de différent.
Mais qui n'est pas forcément ce que l'artiste a voulu.
Exactement, ce qui n'est pas forcément ce que l'auteur a voulu, mais enfin, et en même temps, c'est ça qui est fantastique. D'accord. Parce que même en tant qu'auteur, on se dit des fois, ah ouais, ça c'est pas con ce que tu dis.
Il y en a qui ne ressentent rien, en fait. Parfois on ressent rien.
Mais tu sais de quoi tu parles. Pourquoi en tournée, Éric Métayer se réjouit quand il arrive à se produire en Bretagne?
Parce qu'il aime la bouffe.
Parce qu'il aime les huîtres.
Non.
Les crêpes, le citron.
Il est très loin de sa famille.
Parce qu'il y a moins chaud. Non.
Parce qu'il a des origines de là-bas, de Bretagne.
Ah ça je sais pas.
Je dis rien.
Il aime l'eau froide. Non, mais il aime les thalassos.
Avez-vous des origines bretonnes ou pas?
Oui.
Voilà, il y a des origines bretonnes, mais c'est pas très.
Il aime le beurre de micel.
Non.
Il aime le crêpe bigoudin avec
la nourriture. Les thalassos avec les vieux.
Un fantasme, quelque chose à faire transmettre.
Il a un très beau ciré.
Est-ce que ça
sera? Alors c'est pas loin.
Oh putain, un kawaii.
Ah, les vareuses, les méduses. Il aime le bateau.
Exactement. Plaisir de refaire de la voile. Non.
Mais il y en a partout. Du moment qu'il y a un littoral.
Non. Pourquoi la Bretagne? T'as dit les méduses.
Mais la Bretagne.
Il a parlé de la pêche.
Les méduses en pêche. Non, mais la Bretagne, c'est bien pour apprendre. Moi, j'ai appris la planche à voile en Bretagne au mois d'octobre. On apprend très vite.
Ah bah oui,
on tombe une fois, on reste dessus.
On est sur la planche.
Mais est-ce que, alors, la voile procure quel plaisir? Je pose la question en sachant très bien et ayant fait de la voile pendant toute mon enfance, j'adore ça. Mais vous ressentez quoi?
Moi, je suis plus. C'est le seul endroit où je ne peux plus parler, et deux, où je ne suis que dans le regard de ce qui se passe et dans une vibration avec un bateau. J'ai l'impression de faire du cheval, vraiment. Et j'ai fait plein de voiles, ça m'est arrivé le soir quand je faisais moniteur de voile. Je partais avec le voilier, qui était le voilier pour apprendre la voile aux gens.
Un optimiste.
Caravelles. Je bloquais le gouvernail, je bloquais mes voiles et je me mettais à l'avant et je naviguais au poids. Et je me collais au bateau.
Ah non, vous êtes un très bon.
C'était un plaisir de
naviguer au poids.
Bah, simplement.
En basculant.
En basculant corps. Un peu, en basculant mon corps pour arriver à le faire naviguer. Et c'était génial.
Ça s'appelle pas du paddle, ça?
Non, c'est de la godille avec le corps. Finalement.
Ah, la godille. Alors, la godille, il n'y a qu'en Bretagne qu'on en fait maintenant encore de la godille. Mais ça n'existe plus. Mais voilà, c'est ça. Ce plaisir de.
Et vous avez jamais dessalé?
Ah si, j'ai même dessalé une fois où j'étais, on parlait
alors,
de ciré.
Dessalé,
c'est quand tu te retournes. C'est quand tu retournes ton bateau.
J'étais vraiment jeune moniteur, j'avais acheté un beau ciré jaune.
Rose, tu avais dit rose.
Voilà, c'est un bon pantalon de ciré jaune, des grosses bottes jaunes, j'ai dessalé. Évidemment, l'eau est rentrée à l'intérieur et je commençais à sentir que j'étais en train de partir et je me disais, ah non, pas les bottes. Puis à un moment donné, il a fallu que je les lâche, les bottes, parce que évidemment, il était en train de m'entraîner.
Revenons à Andrea Bescon, qui s'est déplacé pour voir le spectacle d'Andrea en 2017.
François Hollande ou Emmanuel Macron.
2017.
Marlène Schiappa.
Donald Trump.
Il était
né Macron. Hein.
Marlène Schiappa.
Moi j'ai dit Brigitte Macron, non, ça compte.
Oui,
c'est ça.
Brigitte Macron.
Et
Nemo.
Carla Bruni.
Non, tu l'as dit Agnès.
Marlène Schiappa.
Ah, moi j'avais Nicole Belloubet.
Aussi. Ouais, on s'en fout.
Moins connu du grand public.
Bah là, si vous commencez à faire toute la salle, va falloir trouver.
Personne connaît.
Hein. Non, c'est parce que.
Mais c'était à Antoine, il y avait un débat après.
C'est la ministre de la Justice et la première dame de France. Non, mais c'est pas tous les jours qu'on assiste à ça.
C'est énorme, oui. À l'époque, j'avais encore l'espoir qu'on puisse avoir de vraies avancées au niveau des amendements. Par rapport à la loi, mais voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus cet espoir-là, mais.
Parlons-en un tout petit peu quand même. Suite aux chatouilles, vous vouliez modifier la loi sur les agressions, sur la prescription, sur l'âge.
Non, mais il y a eu une avancée. Après, on est nombreux à œuvrer, heureusement. Donc, il y a eu une avancée sur les délais de prescription. Il y a eu une avancée de 10 ans. Ils ont rallongé le délai de prescription de 10 ans. Donc, on peut porter plainte pour un crime sexuel jusqu'à 48 ans. Mais on voulait une présomption de non-consentement pour les mineurs de 15 ans et de moins de 15 ans, forcément, langage juridique.
Ce qui paraît tellement évident.
Ouais,
ça n'a pas été
obtenu. Il y a eu un abus de vulnérabilité, ce qui était voté dans l'amendement qu'a proposé Marlène Schiappa.
Mais qu'est-ce qui retient, en fait, les parlementaires? Je sais pas.
Parce qu'ils ont l'impression que c'est trop rigoureux et que quand il y a des relations entre des jeunes de 18 ans et d'autres de 14 ans et demi, on peut pas considérer ça comme un viol, ce qui est vrai. Après, il faut définir la nature de la relation et c'est au magistrat de le faire. Mais donc, vous voulez une inversion de la preuve.
Je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'un enfant de moins de 15 ans Lorsqu'il y a une relation avec un adulte et conscient et consentant de ce qui se passe, il y a quelque chose qui
n'est
pas...
Oui, on n'est pas encore assez alerte sur tous les phénomènes d'emprise.
C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un enfant de 14 ans à côté de lui, quoi. C'est...
Bah, si, je pense, mais enfin, autant ils vont voter l'irresponsabilité pénale à 13 ans. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été proposé et refusé, il me semble. Ouais. Mais bon, derrière, évidemment, pour les crimes sexuels, c'est un petit peu plus compliqué en France de faire avancer les choses. Ils ont refusé l'amnésie traumatique, la reconnaissance de l'amnésie traumatique dans la loi.
Alors que c'est prouvé.
Oui, oui, par de nombreux neurologues. Oui, ils ont refusé la levée de prescription en cas de récidive. Enfin, il y a beaucoup de choses.
L'amnésie traumatique, elle est connue déjà des militaires depuis. Voilà. Là, par contre, ça, c'est marrant, ça n'existe pas. Là.
Pour expliquer ce que ça veut dire, c'est qu'une personne, homme ou femme, victime d'une agression, le cache tellement,
c'est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de mémoire qui fait que d'un seul coup on ne se souvient plus, c'est réel, il y a une vraie amnésie propre et qui peut et du coup les souvenirs peuvent ressurgir beaucoup plus tard. C'est une question après neurologique, d'amygdale, enfin c'est un phénomène qui est médical et qui est prouvé aujourd'hui
et ça peut revenir
et
la loi ne reconnaît pas cette forme d'amnésie, alors que tous les scientifiques s'accordent à dire qu'elle existe.
Mais en plus, il y a eu un cas qui est complètement fou d'une jeune femme qui a été violée par je crois que c'était une histoire de pompiers encore. Mais malheureusement, il y en a pas mal, mais qui a été violée. Il y a une autre fille qui a été violée, et donc les gendarmes ont pris acte. Il y a eu des vidéos qui avaient été faites des actes. Ouais. Et donc, ils ont vu sur la vidéo cette jeune femme. Et ils lui ont montré les vidéos.
Elle
ne croyait pas. Il a fallu voir la vidéo pour qu'elle se rende compte qu'il lui était arrivé quelque chose.
C'était avec un instituteur. Elle avait 9 ans à l'époque.
9 ans à l'époque, elle ne savait pas.
Et à 25 ans, lui a montré ses vidéos et ne se souvenait pas.
Alexis Rossignol.
Là, ça concerne la loi en France, mais est-ce qu'il y a des pays dans lesquels...
Il y a des pays
dans le nord de l'Europe.
La Suisse, par exemple, entre autres.
Il y a l'imprescriptibilité en Suisse, au Canada. Bon, après, au niveau de la prévention, c'est beaucoup plus avancé.
Ça paraît tellement simple de dire que c'est un tel crime que donc il n'y a pas de limite dans la prescription. C'est tellement simple à dire. Je ne comprends pas l'intérêt de dire il y a une prescription. 30 ans et un jour. On se demande. C'est comme les 15 jours de rétraction sur Internet quand on achète un produit. Je comprends pas qu'on mette ça sur le même plan. C'est infernal.
Je pense que quand même dans la loi française, l'agresseur est quand même plus protégé que l'agressé.
C'est ça.
Et à partir de ce moment-là, on considère que il y a le droit à l'oubli, il y a le droit à tout ça. Et
on a l'impression que c'est fait pour le délinquant, lui dire attention, fais profil bas pendant 30 ans. Après, par contre, le réveil va sonner, tu pourras éclater, on peut rien comprendre.
Mais alors, quand la première dame de France, parce que Brigitte Macron, qui prend là de plus en plus, fait écho pour l'enfance maltraitée et qui s'engage, quand elle a la démarche de venir avec la ministre de la Justice assister à la pièce, et je l'ai vue cette pièce, et on ne peut pas sortir indemne de cette pièce, quel que soit le passé que l'on ait. Encore une fois, on est touché, on est ému, on est bouleversé. Comment une ministre de la Justice, comment Brigitte Macron sort de cette salle où Marine Schiappa et en disant non.
Oh non, elles n'ont pas fait ça. C'est-à-dire que la ministre, enfin la garde des Sceaux, a tout de suite formulé positivement l'allongement des délais de prescription. Brigitte elle-même s'est engagée sur la lutte contre la pédocriminalité et puis a œuvré auprès du président pour mettre en place un secrétariat à l'enfance, ce qui n'est pas négligeable dans l'absolu, même si Adrien Taquet a un travail monumental devant lui. Et je ne sais pas vraiment comment il va faire, puisque je ne suis pas sûre qu'on lui donne tous les moyens de réaliser ses projets. Et qu'il y a des trous dans la raquette comme ça, quand on voit des pédocriminels sortir de prison et retourner dans des associations. Enfin, le dossier, le fichier FIGES n'est pas consultable si aisément. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont compliquées. Donc, non, à la base, il y avait une motivation, mais après, en France, on est quand même une très vieille institution où il y a le Conseil d'État, où il y a le Sénat, où il y a le Conseil constitutionnel.
C'est pas plus mal qu'il y ait tous ces pare-feux et tout. Voilà, c'est pas plus mal. Mais
sur la protection de l'enfance.
Voilà. Mais voilà, ce qui est fou, c'est qu'il y a un moment, quelqu'un qui dit « Ah, ben non, mais moi, je suis pas d'accord », et ça bloque tout.
De toute façon, très cynique, en même temps, la ministre qui vient avec la première dame, il devait y avoir une nuée de photographes derrière, c'est de la com'. premier plan, c'est de la
com. Oui, je pense quand même, forcément. Enfin, après, on est dans une société d'image, mais en tout cas, je sais qu'elle était très honnêtement appliquée.
C'est ça. Et là, encore une fois, ce qu'elle fait pour défendre les enfants maltraités est actif et positif.
Elle est impliquée,
il faut quand même le reconnaître. Éric Métayer a une envie un peu folle de monter un jour une comédie musicale, mais quel est le sujet?
Ah oui, Rabbi Jacob.
Rabbi Jacob, ça je l'ai joué.
Non, ça c'est fait.
Sur un sujet qui existe.
Ah oui, Leïla.
Moi,
dès qu'il y a la question, je viens.
Non.
Tu nous as entendu, t'as dit, il faut que je participe.
Elle essaie d'y aller.
L'écologie.
Non, c'est.
Alors, est-ce que c'est un sujet déconne, comme vous avez l'habitude de les traiter?
Ah, mais là, ouais. Non. Là, en vrai,
le sujet
du cancer, le handicap.
J'en sais rien.
C'est léger, c'est lourd.
C'est une comédie musicale qui vient d'un film culte.
Jamais été en comédie musicale.
Ah, si. Ah bon?
Si.
Ah, pardon, ça a été. Alors, pas connu.
King Kong!
Oui!
Non, elle a dit, j'ai pas entendu.
King Kong?
Elle a fait le bruit.
Ben oui, ah, faisons du mime, elle a pas
fait le bruit, elle a fait le singe.
On fait un time's up, en fait, c'est ça, d'accord?
Non, mais ça serait démentiel, quand même.
Mais on sent quand même la grande danseuse, là.
La grâce, là. Elle dit, ça raconte une histoire, elle l'a dit tout à l'heure.
Nasmi, ça a été fait à New York.
Excusez-moi, on est à la radio, donc tout ce que vous faites là n'a aucun sens. Je ne savais pas qu'il y avait eu un King Kong comédie musicale. Pardon. Et donc, vous l'avez.
Parce que moi ça fait 20 ans que je veux faire ça. Alors c'est vrai que de temps en temps je regardais sur internet et d'un coup un jour je tombe sur l'Australie et je vois, je dis merde, non c'est pas vrai, ils l'ont fait. Ça a été un flop en Australie, mais
c'est le livret qui était pas forcément très moderne.
Aux États-Unis a priori ça quand même, bon alors les moyens qu'ils ont sont.
Mais faut aller vite parce qu'il y a plus beaucoup de gorilles. Hein.
Ouais. Donc, mais là je voulais le faire.
Malheureusement c'est vrai.
Je voulais le faire un peu la déconne quand même, c'est-à-dire un peu comme les 39, mais je voulais vraiment tout le spectacle soit complètement déconne et que les gens se disent mais quand est-ce qu'il va arriver King Kong, parce que là ça a l'air de bien déconner et qui est vraiment un truc à la fin, un vrai King Kong qui
c'est impressionnant. Alors quel est le problème, le coût de la production?
Non, d'abord un c'est les effets spéciaux, le fait des droits.
Si vous cherchez un King Kong, Daniel Morin sera libre à partir de septembre parce qu'il est au chômage
en alternance.
On
chaud très très vite.
Mais pour faire la jeune femme peut-être, enfin si vous êtes à l'heure il y a pas de problème.
Oui,
ça c'est pas beau, ça c'est pas beau,
franchement. Méfiez-vous sur la suite de l'émission.
Non, mais, et en même temps,
parce
Leïla...
que je viens de me réveiller, je suis pas une grosse humeur.
Leïla, vous la laissez 3 semaines en jachère, elle fait King Kong. Hein.
Et en plus,
il
lui manque 4 heures de sommeil.
Ah
donc
bah,
très bon
4, on est large.
En dehors de la danse.
Ça sent le popper, c'est le champagne.
En dehors de la danse et du jeu, Andrea Bescon a tenté autre chose avec son corps. Mais quoi?
Le cirque, le contorsionnisme, quoi?
La peinture.
Ah, mais Tom, il avait la réponse aujourd'hui, c'est pas possible.
Mais pas du tout, excuse-moi, j'ai la grinta, pardon, excuse-moi d'être chaud.
Ah si, ouais d'accord.
La peinture avec le corps.
Body painting.
Ah oui, j'ai dû faire ça pour avoir 2-3 cachets. Ouais,
à New York, non?
Ouais, non, je, oui, oui. J'ai
vous peignez ou vous peintre. Étiez
Non, je peins comme ça pour le plaisir et encore, bon voilà, je ne
vous avez, j'avais dit, c'était une expérience pour faire parler mon corps.
Je me souviens plus vraiment, en fait.
Ce que fait régulièrement Daniel Morin après un cassonnet, mais ça veut dire.
C'était pour coller son corps sur une toile.
Non, mais Daniel,
À la Klein. Ouais. Non, ouais, j'aurais adoré.
Ça,
hein.
C'est génial.
Ça doit être génial.
On pourrait essayer.
J'aurais adoré faire une expérience à la Klein. Non, bon, ça faisait certainement partie d'un spectacle ou d'un happening et.
Maintenant, elle le fait, mais avec les enfants.
En tant que danseur intermittent du spectacle et tout, on en fait plein, hein, des happenings comme ça. Donc,
Eric, elle en fait plein, vous dites?
Avec de la peinture, avec les enfants, elle en met plein sur le corps. J'ai des photos.
Non, on
est tout en bleu et tout ça. Oui, on le fait.
On est libre dans le jardin, on sort de la gouache et puis.
Oui, pardon. Est-ce que c'est peindre les mains, les pieds pour faire des empreintes sur des feuilles et faire des toiles?
À la base, c'est ça.
Ou c'est juste maquiller?
Ça dégénère.
Après, c'est tout le corps.
Alors, très bien. Allez, dernière question. Eric est champion du monde, mais de quoi?
Ping-pong?
Non.
Échec?
Non.
Afro?
Couture?
Mais oui!
Quoi?
Afro?
Oh, le festival. En même temps, on aurait pu deviner ça.
C'est pas le coup du chapeau, ça?
Écoute,
même un de plus,
en tout cas, t'as progressé. Non.
T'as progressé.
T'as fait que 2 aujourd'hui.
Mais ça va pas ou quoi? J'en suis à moins 3 ou 4.
Moi j'ai eu 2 points.
Déjà, pas de jugement.
Ouais, 2 à peine.
2,
franchement. Oui, mais 2, on a
5 questions et 10, je gagne. À la fin, je gagne.
Non, mais là, on annule la saison.
Alors, écoutez bien les scores de la saison. Parce que,
alors sachant que tout le monde n'était pas là le même nombre de jours.
Oui, ça a été proratisé.
Et puis tout le monde bosse pas, du coup, tout le monde bosse pas tous les jours plus non plus, parce que finalement, une fois par semaine, bosser la doc, c'est
fastoche. Des vrais joueurs,
mais bosser cinq fois par semaine la doc, c'est une autre histoire.
Ils sont vrais, ils sont en vrai
combat. Toute l'année, nous avons compté les points. Denis a compté les points de qui répond à quoi aux interros. C'est un truc de dingue.
Mais qui a compté les points,
Denis? C'est Daniel qui gagne, je me tue.
Donc, celui qui arrive. Celui qui arrive dernier déjà, c'est Albert.
Le temps de réaction est plus long.
Non, ça va.
Mais moi, tu sais que des fois, il me donne les bonnes réponses à 13h.
Après, cet homme qui, malgré la remontada d'aujourd'hui, tu arrives en 9e position. En 8e position, c'est Daniel. En 7e position, c'est Alexis Le Rossignol.
Je pensais que j'étais au-dessus.
Non. 6e position, c'est Guillermo Guise. De ce qu'on a compris.
On a quand même interprété.
Agnès, attention.
5e position pour Frédéric Siri. Ça commence à être chaud, là. 4e position pour Jérémy Crédville. 3e position pour Agnès Hurstel, qui là a fait une remontada. 2e position pour Marina Rollman. Première position pour Leïla Gaïla.
Filles,
elle ne devrait pas jouer, en fait.
Mais non, c'est ça. Je ne pouvais pas perdre. Vous viendrez m'embrasser après.
Et ton cadeau, tu l'as eu hier soir. Alors,
c'est hyper bizarre de dire ça, du coup, comme ça.
Mais non, mais on se dit, vu l'heure à laquelle tu arrives, c'est que ton cadeau, tu l'as eu hier soir.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Non, mais moi, je veux même pas savoir. Revenons.
Et lui, il est réveillé depuis longtemps. Hein, moi, il m'a appelé ce matin.
André Avescon, Éric Métayer.
Disons les choses.
Vous avez choisi Isabelle Otero et Géraldine Martineau pour jouer donc Déglutie, ça ira mieux. Ce texte d'une maman qui a une maladie, elle ne sait même plus d'ailleurs comment s'appelle cette maladie, de sa fille qui découvre cette maladie et qui est en train de ronger de l'intérieur sa maman. Elle voit qu'elle perd la boule, elle voit qu'elle parle à une autre personne et elle comprend qu'elle parle à sa maladie, du moins il y a même un code qui est utilisé pour qu'il y ait comme une espèce de mot-clé comme ça, un mot déclic pour qu'elle revienne à la réalité quand elle est en train de perdre la boule. Elle entend des musiques, d'ailleurs aussi, on parlait de musique tout à l'heure, elle entend des musiques que sa fille n'entend pas, elle imagine, elle a ses fantasmes qui reviennent. C'est comme si toutes les soupapes s'ouvraient où elle dit tout. Et elle dit tout, y compris le fait qu'elle, si elle avait du courage, elle mettrait fin à ses jours.
Oui, c'est sans filtre. Hein. Oui.
En fait, elle n'a plus de filtre.
Non, mais...
Comment vous est venue l'idée? C'est le sujet de l'accompagnement en cas de maladie grave.
On a tous vécu un peu ça. Nous on a vécu un accompagnement. C'était très dur, très éprouvant, et on n'a pas voulu. On a voulu vraiment créer une fiction autour de ce sujet pour s'éloigner délibérément de ce qu'on a vécu. Mais en tout cas, on a été tous les deux très affectés et très bouleversés, et on s'est dit mais mince. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de laisser quelqu'un dégénérer autant et souffrir autant? Et est-ce que c'est pas aussi une marque d'amour que d'apporter d'autres solutions? Voilà. Alors nous, après, on n'apporte pas forcément de jugement avec cette pièce. En fait, on pose des tranches de vie comme ça, et puis on pose la question.
Vous prenez une position quand même.
Oui, ces personnages-là, il y a un dilemme.
C'est le personnage qui propose ici.
Ouais. Non, mais il y a évidemment.
Vous prenez position.
Non, mais évidemment, on est totalement contre l'acharnement thérapeutique. Enfin, je pense que moi, s'il m'arrivait quelque chose ou à Eric, on est tout à fait d'accord tous les deux pour que chacun prenne une décision concernant l'arrêt d'une vie qui engendre que de la souffrance. Je crois que c'est fondamental. Mais
la vraie question, savoir. Et on en parlera tout à l'heure, c'est quel jour, à quel moment, parce que chaque minute.
Mais là, déjà aujourd'hui, il a pas l'air bien, Eric. Il a pas l'air bien.
Et puis finir sur une émission avant l'original, c'est bien.
C'est pour ça.
T'es sérieux, Alex?
Du 5 juillet au 28 juillet.
Moi, j'ai un spectacle à Avignon aussi.
On attend la fin de Avignon.
Après Avignon.
Avant les vacances. Je joue mon spectacle et après je.
Allez, fin juillet, on prend une décision.
Du 5 au 28 juillet, donc Déglutie, ça ira mieux au théâtre du Balcon à 22h30. C'est un succès annoncé, Tom Villa.
Bah, j'espère. Après, c'est la dernière émission de la saison. J'ai pas trouvé de l'année. Je vais pas trouver ce matin non plus. On va passer. Alors, André et Eric, juste pour être totalement honnête, comme dirait Patrick Balkany, Nagui m'a envoyé un SMS la semaine dernière pour me dire, je cite, deux points, ouvrez les guillemets. Tom, il y a les auteurs-réalisateurs des Chatouilles qui viennent, mais t'inquiète, vendredi, ils viennent pour une pièce beaucoup plus détente sur l'euthanasie. Bisous dans les fesses. Fin de citation. Donc, là, je me suis dit, putain, Nagui.
C'est signé, t'es sûr?
Ah ouais, j'ai la capture d'écran. T'inquiète pas, je l'ai envoyé à la RH.
Tiens, disons.
Non, mais là, je me suis dit, donc Nagui me prend pour une buse. Il y a eu la pédophilie avec les chatouilles, l'autisme avec la leçon de danse. Maintenant, déglutis, ça ira mieux avec l'euthanasie. Je me doutais bien qu'on n'allait pas vous recevoir pour Camping 4. Ou alors un Camping 4 où Patrick Chirac est en fin de vie, le foie cirrosé au Benko et au Ricard. Et il vient annoncer au Camping des Flobeleux qu'il leur lègue son slip de bain pour tout le bonheur qu'il a reçu. Mais c'est, non, c'est fou. Ça. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous réussissez l'exploit de faire des spectacles magnifiques avec des sujets sensibles. Ouais. À l'avenir, j'espère que vous continuerez à faire des spectacles, peut-être sur d'autres sujets tabous, l'homophobie, le racisme, le salaire des chroniqueurs à France Inter. Et là,
t'as pas honte?
Non, là, c'est l'euthanasie. Et c'est bien d'en parler assez proche. C'est vrai, c'est bien, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, moi si c'est pour finir comme un légume dans une maison de retraite, c'est hors de question, je me tire une balle avant. Mais après, ils se font attraper par Alzheimer et tout le monde a oublié. Et ensuite, c'est délicat pour les proches de revenir à la charge. Mais papy, t'avais pas dit que passer un certain stade, tu sais, les légumes de... J'ai l'impression qu'on y est, quoi. Non, mais il n'y a pas d'urgence, c'est juste pour le testament. Il y a Laura et David qui demandent, mais ok, d'accord, on en parle plus tard, il n'y a pas de souci. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, après, quand c'est une volonté personnelle, vient la question de qui t'aide. On voit bien dans la pièce que c'est un enjeu, c'est délicat de demander à tes proches, tiens, bah dimanche, vous passez à la maison avec Caro pour le déj, je ferai mon poulet, après on ira se balader en forêt, puis tu me regarderas avaler un tube de barbiturique, voilà. Non, c'est délicat. Moi, j'ai déjà des scrupules d'embêter les copains pour un déménagement, alors pour l'euthanasie, puis de toute façon, l'euthanasie, il y a besoin de personne, tu vas dire quoi? Bah, je veux bien que tu sois à mes côtés au cas où ça tourne mal. Mais ça tourne mal de quoi? Au pire, il se passe exactement ce que tu avais prévu. Et puis, de toute façon, en France, on n'a pas le droit. L'euthanasie, c'est en Suisse, en Belgique. La GPA, c'est en Espagne. Moi, quand mon grand-père est parti faire un voyage à Lausanne, j'ai flippé. Je vous raconte même pas la gueule de mon père quand ma grand-mère est partie 5 jours à Madrid. Là, elle a vraiment eu peur. Mais bon. En tout cas, bonne nouvelle. Déglutis, ça ira mieux. Ce sera en Avignon du 5 au 28 juillet.
Alors... À Avignon, ça se dit pas en Avignon, c'est à Avignon.
Ah, donc sûr. Maintenant.
Mais non, je...
c'est pas la même ville. C'est...
Ah, pardon, mais... d'accord. On peut dire au Festival d'Avignon?
Ouais.
Okay. En Festival d'Avignon.
La mauvaise foi de cet homme. Le très bon argument, et pardon d'être terre à terre, c'est que vous jouez la pièce à 22h30 et il fera pas trop chaud. Ah bah là, Avignon, déjà d'habitude il fait chaud, mais alors avec le réchauffement climatique, je lui donne 5 ans max. À mon avis, dans 5 ans, le Festival d'Avignon, c'est à Plougastel. Allez, bonne émission.
Merci, Tom Villa. La voile. La bande originale. Tout à l'heure, nous recevrons Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et conseiller régional d'Île-de-France, maire également adjoint du 12e arrondissement et qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment une lettre ouverte à Brigitte Macron. On aurait peut-être dû appeler Brigitte finalement parce qu'on va parler beaucoup, ouais, beaucoup d'elle. Beaucoup d'elle. Mais d'abord, voici Alexis Le Rossignol. Ah oui.
Et ben voilà, on y est, c'est la dernière chronique des 11h22 de la saison. Et c'est moi qui m'en charge. Tout un symbole, j'ai l'impression d'être le dernier tireur de pénalty d'une équipe de foot, tu sais. Bon, souvent, le dernier tireur, c'est un défenseur. Le gars, il a mis 4 buts dans sa carrière, dont 2 contre son camp. Quand il prend son élan, les gens ont peur. Ils se disent, oh là, lui, il va la mettre au-dessus, tu vois. Alors oui, c'est la dernière, je suis content. L'autre jour, Tom Villa a même parlé de nous chez Ardisson.
Qui, après avoir été numéro 1 en télé et numéro 1 à la radio sur France Inter avec une bande extraordinaire, et Leïla Kadour Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Guillermo Guise, Tom Villa, Marina Ronmal.
Bon, ouais, moi j'étais là. J'étais en plus devant la télé au bon moment. Je me dis, c'est bon ça. Première oui, fois que mon nom va être prononcé à la télé.
Non, mais attends. Non. Ça a été coupé.
Non, mais si ça se trouve, les émissions du vendredi, elles sont même pas diffusées en fait. Comment je pourrais savoir? Je peux pas les écouter, je suis là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis le moins payé de la bande. Hein. 30 euros de moins que les autres par émission. Vous trouvez ça normal, vous?
Ouais.
Ça fait un SMIC sur une année. Hein. Si j'étais une femme, bon, bah, je comprendrais. On me dirait, tu sais, t'es moins, enfin, t'es plus, enfin, c'est l'usage, quoi. Et je dirais, ah oui, effectivement, vu comme ça. Enfin, pourtant, j'ai pas trié des lentilles avec des gants de boxe en cette saison. Les biographies, je les ai lues. Les films, je les ai vus. Les livres, je les ai reçus. Non, mais en plus, j'étais le souffre-douleur de l'émission. Je mériterais une prime pour avoir encaissé ce que j'ai encaissé.
C'est vrai.
Parce que non, mais je veux bien être bon camarade, mais c'est aller loin. Hein. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Les brimades, les moqueries, l'atteinte à mon intégrité et le sabotage de ma chaise il y a 15 jours, c'était pas un coup des Illuminati.
Et des reptiliens.
Ah, putain.
Bon, je me plains pas, j'ai croisé des gens sur ce plateau que j'aurais sans doute pas croisé ailleurs. Le jour où j'étais assis à côté de Benoît Poulvorde, bon, je me suis dit, Alex, qu'est-ce que tu fous là, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, il m'a posé la même question, tu vois, c'est... Édouard Baird, grand souvenir aussi. Les frères Lelouch, pareil, c'est des copains maintenant. Gilou et Filou, je les appelle. Alors dernièrement, je me disais, c'est cool, c'est bientôt la fête de fin d'année organisée par Nagui pour ses équipes. Parce que Nagui, c'est quelqu'un de généreux, ça, messieurs, on ne peut pas lui enlever. Ça lui coûte cher, mais il sait se faire aimer. Hein. Mais manque de peau, je
tu
serai à Avignon,
moi aussi. Ouais,
donc je vais rater la soirée organisée par Nagui en son honneur.
J'ai d'abord regardé quand tu étais en Avignon.
Et voilà, c'est ce que je me suis dit. J'en étais sûr. Et tiens, il y a des absents. Oui, mais c'est Alexis. Ah, ben on place là, voilà. Je verrai pas Leïla monter sur le bar en hurlant au DJ. Hé, hey, ta chanson, on s'en fout, on veut Michel Sardou. Je verrai pas Tanguy s'enfiler des rondelles de saucisson en disant, et ces cons de vegan qui pensent que je suis des leurs. Cette année, personne me prendra par l'épaule pour me dire, c'est bien ce que tu fais. Moi, ça me fait pas rire, mais c'est bien. Tu connais Roman Frécinet? Il est bon, lui, hein. Tu vois? Bref, étant donné que je pourrais pas venir, j'ai quand même essayé de refiler ma place à quelqu'un.
Oui, Alexis.
Oui, maman, ça va?
Oui, ça va.
Je t'appelais parce qu'en fait, tu vas être surprise, mais j'ai eu Nagui au téléphone.
Oui.
Et en fait, il invite, enfin, il souhaite vous inviter pour la fête de fin d'année.
C'est quand?
C'est le 3 juillet.
3 juillet.
Donc, c'est une fête qui aura lieu chez lui, parce qu'il a une grande salle pour faire la fête, tu vois.
Oh là là, oh, dis donc. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, faut venir, ça va être sympa. Il y aura Leïla, il y aura les autres intervenants.
Je vais faire toute petite, Alexis.
Michel Simès aussi, je sais pas si tu l'aimes bien, lui.
Michel Simès, bah après, Michel Simès, il est sur tous les fronts, donc. Ouais, bah, j'aime bien. Mais je l'aime bien parce qu'il prend pas la tête.
Puis peut-être Stéphane Plaza aussi.
Ah ouais, ah, bah, il mettra de l'ambiance.
Bon, bah, c'est super. Non, mais moi, je serais pas là parce que je vais à Avignon, moi. Donc, c'est pour.
Ah bon
c'est... Ça, vous me remplacerez, quoi.
Bon, bah, écoute, c'est moins drôle.
Ben, je lui dirai demain que c'est oui.
Bon, mais on logera chez vous, alors?
Non, chez lui, il a de la place.
Bon, ça va, Nagui, ça pose pas de questions, pas de problème? On fait ça?
Non, enfin, sauf que c'est... Je leur dis juste une question. Ouais. Ils emmènent les sacs de couchage ou vous avez ce qu'il faut?
Voilà. Ça tout. Va aller.
Et est-ce qu'ils peuvent rester, trois jours? Parce que les deux Sèvres, c'est loin, tu vois. Attends, c'est allez, merci beaucoup,
Michel. Bravo. Bienvenue. Bravo. Merci, Alexis. La bande originale.
Nagui. Dernière chronique, Alexis, et puis c'est la dernière au rond-point aussi, samedi, au point-virgule, pardon, samedi à 17h50.
Et, non, 17h, 17h.
Ah ouais, d'accord. Okay,
toi, t'as vraiment les mauvaises horaires.
Ah non,
bah
pardon.
Et il reste beaucoup de place.
Non, c'est 16h50, il faut arriver 10 minutes avant.
Ouais, c'est ça. Allez boire un coup avant.
Surtout aller boire un coup après.
Au point-virgule.
On va parler de la musique parce que on en parle de cette musique dans la pièce, notamment avec. Oh.
Voyage, voyage.
Loin de la nuit et le jour.
Voyage, voyage.
Ou encore.
Ouais, bon. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais
dans cette pièce, déglutis, ça ira mieux. Et puis il y a.
Pour mourir, j'ai choisi l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux.
Évidemment, ces paroles prennent une toute autre dimension. On va en parler dans quelques instants parce que est-ce que décider du moment où l'on part et s'approprier sa mort, ma mort m'appartient, c'est le hashtag dont on va parler dans quelques instants avec Jean-Luc Romero Michel. Est-ce que c'est pareil ou pas qu'un suicide? C'est l'une des questions que l'on va évoquer. Mais d'abord, la musique en 1998. Andrea Bescon, vous écoutiez. Please, 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 please. Cut Killer, LL Cool J, Ja Rule, la musique urbaine, vous avez ça en vous?
Oui, je suis une inconditionnelle du hip-hop.
Et cette musique-là vous évoque quoi? Quelle image? Qu'est-ce que vous voyez?
Mes balades dans le 19e, le parc de la Villette, mes copains, ils faisaient chaud aussi, on avait déjà des brumisateurs, un peu de pétard aussi.
On est en 98, Andrea. Vous remportez le prix Espoir du Grand Concours International de Paris, présidé par Madame Caroline Carlson. Ça,
classe.
Ouais, ça,
ouais, c'était magnifique. Bah, c'était un honneur, surtout que j'ai présenté ce concours sur un échec, en fait, puisque j'ai été une des seules danseuses de ma promotion à ne pas avoir été prise pour une création. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps pendant que les autres vont travailler et vont s'éclater. Et du coup, j'ai préparé le concours de Paris et j'ai remporté le prix Espoir. C'était plutôt génial.
Et qu'est-ce que vous vous aviez présenté à l'époque? Vous vous souvenez? Quel était le... J'avais une image assise.
Oui, non, parce qu'il y avait trois chorégraphies à présenter. Je me souviens de l'écuyère de Brumachon, qui était une chorégraphie... hyper physique, enfin, j'aimais beaucoup le travail de Brumachon. Et
Eric, vous réagissez, ça veut dire quoi? Vous l'avez vu?
Ah non, j'ai pas vu. Ah non, là, j'ai quand même pas, je la connaissais pas encore, là.
Non, je sais, mais.
Non, mais parce que c'est des physiques, ça m'étonne pas que ce soit physique, parce que
elle est physique.
Donne... Oui, très, très physique, donc.
Oui, merci.
C'est la première fois que je dansais sur une très grande scène, en fait. J'avais dansé au Théâtre des Champs-Élysées, du haut de mon jeune âge à l'époque. J'étais très impressionnée, c'était assez magnifique.
À ce moment-là, Éric Métayer, vous écoutiez, ça, il y a à nouveau le ciré jaune qui ressort.
Oh l'angoisse!
Ouais, très breton, très breton.
Ah bah ouais, j'écoutais ça moi.
Putain, là t'as envie de garder les bottes là.
Mais c'est... pas du tout.
On dit pas subir d'ailleurs plutôt qu'écouter.
Non mais en plus certaines personnes prennent ça comme vraiment le côté urbain breton.
Oui, voilà, c'est urbain breton. Rap. Mais non, mais pourquoi j'écoutais ça? C'est parce que moi, ma base, c'était Alan Stivell. Ouais. Je me disais, il va jamais revenir, Alan Stivell. Ouais. Et tout d'un coup, j'entends Trey Matelot, complètement changé. Donc, je l'ai écouté.
Et quand vous écoutez Nolwenn qui chante La Jument de Michaud, vous pleurez? Comment ça?
Non, mais c'est ma base. C'est vrai que la musique bretonne, c'est ma base.
Ça résonne.
Je suis parti à c'était où? À la porte de Versailles, je suis allé avec le drapeau breton de la mairie de Rennes. On est rentré là-dedans pour le concert de Stivell. Ouais. J'étais là-dedans.
Andrea est en train de
fuir.
Elle se désolidarise.
Mais elle est trois fois plus bretonne que moi encore.
Mais en plus, elle est en marinière aujourd'hui.
Elle est bretonne à mort. Elle
est totalement baisée d'âge après la.
Braise à Tao.
Mais pour passer la musique à une fête, je préfère qu'Andrea vienne entre nous.
Alors, du coup, je vous avais dit que je ne vous louperais pas après.
Éric,
vous, en 98, vous participez au divertissement Jeu de comédie, qui était une émission présentée tous les jours par Thierry Beccaro sur France 2.
Oui.
Ouais. Vous en souvenez ou pas?
Moi, j'ai pas vu ça.
Eh bien, c'est-à-dire que déglutis, ça ira mieux, commence par ça. C'est-à-dire une perte de mémoire et
j'ai un gros problème.
Oui. Jeu de comédie, oui, c'est vrai. C'était de l'impro.
Ouais, ça vous a laissé aucun
souvenir. Voilà, complètement. Hein, wow. Mais alors.
C'est génial.
Bon, ben, on salue Thierry Beccaro.
Ouais. Mais j'adore Thierry. Bonjour Thierry. Mais là.
Oui, oui. Bon, ben. Oui. Ouais. Motus. Ouais. En 2000. En 2008, Andrea, vous écoutiez.
Et toi, tu vis la banlieue réelle. Les impacts sur ton cœur sont des impacts à balles réelles. Tu braques.
Kelly James Avirel, je veux juste savoir, est-ce que c'est la danseuse qui aime les sons, les tempos, les rythmes, les ruptures, ou est-ce que c'est l'auteur, la comédienne, qui aime les textes et le sens?
Là, en l'occurrence, Kelly James, ce sont vraiment ses textes. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, c'est un vrai poète. Moi, personnellement, j'ai besoin de ça dans le rap, en fait. J'ai besoin qu'on me parle d'un vrai propos, d'une vraie prise de position. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il énonce, mais je reçois et je trouve que c'est divinement écrit tout le temps.
Et 2008, on parlait tout à l'heure des adaptations en comédie musicale. C'est Rabbi Jacob sur scène. Et c'est là que vous rencontrez un homme. Et il y a un coup de foudre artistique, amoureux.
On se demande qui.
Patrick Timsit.
Un breton. Ouais, vous avez... Quel est votre souvenir de parce que c'est un moment fondateur dans votre vie?
Non, mais ce qui était assez fou, encore une fois, c'est que ni l'un ni l'autre ne devait faire ce projet. Moi, je voulais travailler autrement. Je sortais de comédie musicale, j'avais pas envie de me relancer là-dedans. En plus, je sentais que ça allait être un flop, très honnêtement.
Et vous vouliez jouer déjà à l'époque, plus tant danser, mais jouer aussi.
J'avais envie de comédie, j'avais envie de passer au théâtre. Et là, bon, l'occurrence, la motivation, c'est qu'on m'avait proposé un petit rôle de comédie, tout petit, mais enfin, je me suis bien régalée. Et heureusement, je l'ai fait, puisqu'avec Eric on s'est rencontrés et lui-même devait normalement partir sur Un Monde Fou, la tournée d'Un Monde Fou qu'il rejoue maintenant.
Je vais jouer à Avignon parce que j'ai pas fait la tournée, et heureusement, parce que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit ben c'est super, écoute, vraiment d'accord, je comprends ton problème, jouer Rabbi Jacob au Palais des Congrès, ça va être génial, je comprends que tu as tellement la comédie musicale, on fera la tournée plus tard. Heureusement qu'il a accepté ça, parce que sinon on se serait pas rencontrés. Donc je fais la tournée maintenant, enfin je fais Avignon avec ça, avec ce spectacle, mais sinon je le faisais pas.
Et il n'y aurait pas eu les deux beaux enfants.
Ouais, voilà.
C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou.
Ça s'est fait sur des noms.
Accueillons. Ouais. Mais c'est là où on voit que la magie de la vie, elle est faite aussi d'opportunités, de choix. Ouais.
C'est beau ce que tu dis.
De hasard, mais il y a aussi, je crois, au destin. Le destin après.
Ah, je crois au destin, mais même quand j'ai vu Andrea la première fois danser sur. Il y avait 30 danseurs sur le palais des. Enfin, pas où on est en répétition. Je vous jure que c'est vrai. J'ai dit que c'est. Qui c'est dingue au milieu de tout ça. Parce que les autres répétaient, il y en avait une, on avait l'impression que la salle était pleine, qu'on était au Palais des Congrès, qu'on était déjà
et qu'elle se donnait
une énergie, mais un truc, mais c'était tellement haut.
Et ça vous a fait peur.
Peu à fond, en fait.
Ah, pas du tout, ça me fait jamais peur, ça. J'ai besoin de cette énergie, moi, j'ai besoin. C'est comme en alpinisme, il y en a un qui tire l'autre vers le haut et après on monte plus haut et on monte plus haut et c'est ce qu'on fait ensemble, on s'aide.
Reparlons de Dégluti, ça ira mieux. Andréa Bescon, Éric Métayer, vous mettez en scène le texte que vous avez écrit, c'est joué par Isabelle Otero et Géraldine Martineau à partir du 5 juillet jusqu'au 28 juillet au Théâtre du Balcon à Avignon à 22h30. Jean-Luc Roméo Michel, merci de venir à ce micro. Jean-Luc, je l'ai dit, vous êtes président de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est toujours un sujet tabou. En France, on a l'impression que
j'ai déjà pas essayé de plomber votre émission avec un sujet. Non, mais en fait, quand on parle de la fin de vie, en fait, c'est parce qu'on parle de la vie d'ailleurs. Ouais. Quand on voit les sujets qu'Éric et Andrea traitent depuis tant d'années, c'est des sujets de la vie. Et on traite ça d'une manière terrible, alors que en fin de compte, les gens qui réfléchissent pas à la mort, c'est les gens qui sont souvent les plus malheureux en fait dans la vie. Parce que quand vous avez réfléchi, quand vous savez que vous allez mourir, on est quand même dans une société où les gens courent après plus d'argent.
On va tous mourir.
100% en chrono. Hein. Ouais, désolé d'annoncer cette mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Mais
bravo, les gens, bon appétit. Hein.
Non, mais les gens, ils courent après plus d'argent, plus de responsabilités. Et ils en oublient qu'ils vont mourir. Quand on a réfléchi à cette question-là, quand on sait qu'il y a une fin à tout ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vit d'abord mieux le moment présent, qui est quand même la seule chose qu'on ait. Et puis, peut-être qu'on fait plus attention aux gens qui sont autour de nous. Donc, en fait, c'est pas un sujet si plombant que ça, parce que c'est un sujet de la vie. Et je pense qu'il vaut mieux réfléchir à sa fin de vie pour éviter des situations très difficiles. Alors, regardez l'affaire Vincent Lambert, dont on parle beaucoup en ce moment.
Parlons de la loi. Vous êtes un homme politique, donc ce sont les hommes politiques qui décident de nos lois et de notre manière de vivre. Est-ce que la France est en total décalage par rapport à d'autres pays, déjà, dans ce rapport à la mort et dans ce rapport au passage vers... un autre monde.
Bah, il y a plein d'études qui ont été faites, hein, c'est pas moi qui le dis en tant que militant, qui disent qu'on meurt très mal en France. Ça, c'est quand même une des réalités. C'est un des pays où on meurt le plus mal en France.
Ça veut dire quoi, on meurt mal?
Ça veut dire que d'abord, les conditions sont pas là. C'est-à-dire qu'on met plein d'argent au début de la vie, et tant mieux. Hein, quand on a des enfants, etc., on a des congés très longs, etc., on met de l'argent. La fin de vie, on a complètement oublié. Regardez les soins palliatifs. On en parle tout le temps. On nous dit que c'est fantastique, formidable, et ce qui est vrai. Sauf que, à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Mmh. C'est la réalité. Donc, ça veut dire que soit vous avez des relations, soit vous mourrez au bon moment. Donc, il faut choisir le moment de mourir. C'est quand même pas aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas l'argent là-dessus. Et puis, on est dans une histoire ici complètement taboue, qui a un décalage, d'ailleurs, entre les responsables et les gens, et les Français. Puisque les Français, ils ont du bon sens. Ils savent qu'en fin de vie, on ne sait pas ce qu'on voudra. Parce que quand même, sur cette question-là, ceux qui ont des certitudes, moi, je vais bien les voir, mais on ne sait pas ce qu'on veut. On doute jusque la fin. Moi, je peux être militant pour le droit de choisir. Je choisirais peut-être de mourir le plus tard possible en soins palliatifs. Mais peut-être que j'aurais... plus besoin de ces jours, de ces semaines, et je voudrais partir. Eh ben, on vous donne pas ce soin-là, ça si. On vous donne une solution qui s'appelle la sédation terminale. Alors, on nous dit, très poétiquement, dormir avant de mourir. On vous endort. On arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, ce qui peut être, faut pas être caricatural, là, une solution si vous êtes très vieux, très malade, vous allez mourir en quelques heures. Mais quand ça dure 3 semaines, vous imaginez?
Donc il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de pilule.
Ah ben non, mais on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. D'accord. On nous dit, c'est pas de l'euthanasie.
Alors ce qui se passe.
C'est quand même une forme d'euthanasie.
Ce qui se passe, oui non, c'est une mort à petit feu quand même.
Voilà, c'est une mort à petit feu.
Il y a pas non j'en prie d'ailleurs.
On n'a pas forcément le droit tout le temps, il me semble.
Ah non, en plus. D'accord, en plus, c'est une décision qui est médicale.
Limité,
on dit qu'on a un droit, mais en fait, c'est les médecins qui décident. Puis il faut vraiment que vous soyez dans la dernière phase de votre maladie.
Et parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours une suspicion de se dire si la famille se réunit en allant voir les médecins en disant débranchez tel patient, c'est notre maman, c'est notre papa, injectez-lui quelque chose, arrêtez tout ça. Malheureusement, il y a aussi des cas où les familles sont des salauds et ils veulent, je sais pas moi, toucher un héritage.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, ceci dit. Hein. Mais vous savez, aujourd'hui, justement, le problème, c'est qu'on donne la parole aux gens qui s'entourent.
Non, mais il y a toujours la suspicion de se dire...
Oui, mais justement, si vous mettez une loi où vous mettez votre volonté la volonté de la personne en fin de vie au centre des décisions. Parce que vous quand même savoir que 95% des gens, jusque la fin, sont capables de dire ce qu'ils souhaitent. Après, il y a les gens, voilà, qui ont certaines maladies que vous traitez dans la pièce, et puis des gens qui sont dans le coma. Mais l'immense majorité des gens, jusqu'au bout, peuvent dire ce qu'ils souhaitent. Donc, il faut mettre la personne au centre de décision. Puis mais après, il faut choisir une personne de confiance. Il faut choisir, comme ne l'a pas fait malheureusement Vincent Lambert, écrire des directives anticipées, avoir une personne de confiance et dire ce qu'on souhaite.
Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez, Jean-Luc, que la loi, comme pour le don d'organes, puisque avant il fallait dire je suis d'accord pour donner mes organes et la loi a changé, maintenant c'est l'inverse. Mmh. Systématiquement, les organes sont donnés à moins que l'on dise je ne veux pas que mes organes soient donnés. Je schématise parce que là aussi la famille peut encore intervenir et il y a tout un pataquès. Vous pensez que la loi devrait à nouveau changer et dire là, on est tous en forme, heureusement, autour de cette table, on devrait écrire sur un papier quelle est notre décision, c'est-à-dire oui ou non, je veux être assisté, maintenu dans un coma artificiel si je suis dans le coma.
Bah, on devrait pouvoir écrire ce qu'on souhaite.
Comme une dernière
volonté. C'est vrai que les gens qui veulent mourir le plus tard possible, ils doivent être respectés. C'est leur choix, que ce soit des choix religieux ou des choix éthiques. Mais ceux qui ne veulent pas de ces jours et de ces semaines supplémentaires, on est quand même dans une république laïque, on a quand même le droit de choisir le moment et la manière de mourir.
Il y a des exemples de personnes qui ont été dans des comas. Certains ne s'en sont pas sortis, d'autres sont sortis handicapés et lourdement handicapés, et d'autres en sont très bien sortis. Donc c'est
on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Enfin, vous pouvez vous décider ce qui est le mieux pour vous. C'est quand même à vous de le décider. Et je vous rappelle, ces cas-là, c'est en plus des cas très marginaux.
On
parle toujours des cas extrêmes, c'est-à-dire mais je vous rappelle que la majorité. Regardez dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, qui vont bientôt entourer quasiment la France.
Lesquels?
Aujourd'hui, on a les Pays-Bas, on a la Belgique, on a le Luxembourg, on a la Suisse, et puis vous allez bientôt avoir l'Espagne. Ah, vous voyez, quand on nous dit c'est une question de nord, de sud, bah, les Espagnols, sur plein de questions, des regards sur le mariage pour tous, ils ont été bien en avance sur nous.
Et PMA aussi, oui.
Et voilà. Et PMA, enfin, évidemment, de toute façon, la France, elle est sur les questions de société toujours en retard.
Aujourd'hui.
Vous savez suffisamment sur les questions que vous traitez, vous aussi, et moi sur celles que je traite, notamment on est bientôt à la Gay Pride, enfin, la marche des fiertés de Paris. Ouais. On voit qu'on a encore du boulot dans le domaine.
Et si aujourd'hui, quelqu'un écrit dans ses dernières volontés, qu'il ne veut pas de soins palliatifs, qu'il ne veut pas être maintenu dans un coma artificiel ou maintenu dans un coma tout court, est-ce qu'on respecte sa parole aujourd'hui en France?
Je pense que la majorité des médecins va la respecter, mais c'est pas opposable, ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est ça qui est quand même un petit peu terrible, c'est qu'en fait, c'est le médecin qui va décider. Alors on donne un pouvoir d'ailleurs aux médecins qui ne veulent pas en avoir autant. Mais au final, on dit c'est simplement contraignant, mais un médecin peut dire c'est manifestement inapproprié, je ne veux pas l'appliquer. Voilà. Donc on voit, on est toujours dans ce problème où on ne veut pas faire confiance à la personne, on ne veut pas la mettre au centre des décisions. Alors que, je vous dis, regardez tous les sondages, je vais juste en prendre un parce qu'il n'est pas contestable, c'est celui qui a commandé la croix, qui évidemment n'est pas pour l'euthanasie. 89% des personnes qui ont été consultés dans le sondage sont favorables à l'euthanasie et ou au suicide assisté, et même 72% des catholiques pratiquants. Il n'y a pas non plus des masses.
Jésus, il aurait préféré
ils ont été honnêtes de publier.
C'était son choix, il souffrait pour les autres. Mais on n'est pas obligé d'être le Christ comme à une époque, on demandait aux femmes d'accoucher dans la douleur. Celle qui voulait le faire, elle pouvait le faire, mais on va quand même
pas
obliger.
Merci Jean-Luc,
Jean-Luc, les discussions, les débats sur les lois bioéthiques peuvent aider justement à changer quelque chose?
Ce sera pas dans les lois bioéthiques, à mon avis, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est jamais arrivé, de parlementaires qui nous soutiennent. Maintenant, il suffirait que le président de la République et Madame Macron entendent enfin les Français sur cette question-là. Parce que je rappelle, c'est une loi qui oblige à rien du tout. Rassurez-vous, Nagui, personne ne va vous euthanasier quand on va de volonté. C'est une loi qui donne un droit. C'est une loi qui donne un droit. C'est ça qu'il faut que chacun comprenne. C'est comme quand on a donné
faut faire l'injection, je suis prêt, moi, pour Nagui. Personnellement,
c'est ce que je dirais. Tu choisis, parce que je pense que si c'est à eux de le faire.
Je suis mal barré. Maman m'appartient, c'est le hashtag que vous mettez en couverture de votre livre Lettre ouverte à Brigitte Macron aux éditions Michalon. Jean-Luc Romero, Michel, merci Jean-Luc d'être venu apporter votre discours. Ah, je voulais aussi parler de ces portraits de vie, mais avec un H qui vient pour le VIH que vous avez publié, que vous présentez, chez aux éditions Cherche. cherche midi. Tanguy Pastureau pour la dernière. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
C'est la fin d'un cycle cette dernière.
Oui, alors certes, on est heureux de partir en vacances. Hein. Le soleil, les vagues, les MST, les week-ends en famille, on réalise que la moitié de la sienne a voté pour le Rassemblement National aux Européennes. Mais en même temps, c'est une déchirure, un moment aussi difficile à aborder qu'une intégrale en CD d'Evangélie, donc un CD. Oui, nous allons nous quitter.
Mais seulement à midi et demi, on a encore le temps, ça sera après les infos. Merci Alexis Demeyer, autour de l'info à 13h avec le journal de
13h.
Et toute l'après-midi, Alexis sera là pour vous informer. À tout à l'heure. Merci Alexis. La bande originale, dernière ligne droite, avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Agnès Hurstel. Tanguy Pastureau. Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Incroyable.
Et nos invités, Andréa Bescon et Éric Métayer.
Bravo Daniel.
T'as vu, j'ai bien dit, hein, je me suis pas trompé sur ce coup-là. Nous parlons d'Isabelle Otero et de Géraldine Martineau, qui jouent dans Déglutis, ça ira mieux, la nouvelle pièce que vous avez écrite et que vous avez mise en scène, qui sera à partir du 5 juillet jusqu'au 28 juillet au Théâtre du Balcon, 22h30, donc ça se passe à Avignon. Le choix des comédiennes, comment choisir? Est-ce que là c'est encore dans la chorégraphie, dans le mouvement, aussi dans le jeu, parce que il y a quand même un jeu presque de mime, j'ai envie de dire, puisque en l'occurrence
pour
Aline,
pour Isabelle, oui, puisque elle oui, part vraiment avec sa maladie, donc
qui joue Aline, donc Isabelle Otero qui joue Aline, joue avec un personnage en plus que l'on ne voit pas.
Oui, c'est ça. Mais on voulait des comédiennes solaires, on voulait une énergie, on voulait des comédiennes qui arrivent avec une forte personnalité, mais surtout une vraie lumière dans le regard. On a tous nos essences, et elles sont très solaires toutes les deux. Alors Géraldine est très terrienne et Isabelle très aérienne, et voilà, on voulait qu'il y ait une forme d'opposition aussi entre ces deux personnages qui sont littéralement différents en dépit de leur lien de parenté, ouais, forcément. Mais
et Géraldine vous ressemble aussi dans ce côté solaire, c'est vrai.
Elle fait exprès, elle prend des gens qui la ressemblent.
Ouais, moi,
moi par exemple, c'est dingue, la ressemblance, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait. Mais oui, puis on voulait aussi l'écart d'âge, parce qu'on voulait pas parler de la mort
dans la vieillesse.
Dans la vieillesse, on voulait parler de quelqu'un à qui la question se pose justement en pleine vie, en pleine force.
Et apporter énormément de vie dans ce rapport à la mort, en fait. Parler de la mort d'une manière ultra vivante et souvent drôle. Alors encore une fois, je disais tout à l'heure, on ne rit pas du sujet, mais on rit avec les personnages, ouais, dans les situations qu'elles rencontrent.
Et donc oui, dans le rapport mère-fille, oui, qui peut arriver dans n'importe quelle situation de, entre oui, guillemets, désaccord. Voilà.
Oui, voilà, pour enlever la maladie, exactement, elle existerait quand même, cette histoire-là.
Oui, mais on s'est amusé à mettre en scène ce lien filial, ce lien familial où on n'arrive pas forcément à communiquer. Et je pense qu'on est un peu tous concernés par ça. Ouais. Toutes les familles, on a tous des problèmes de communication dans les familles, et on s'est bien marré à créer ces situations d'opposition entre ces deux femmes et ces deux générations de femmes, en fait.
Et ces deux comédiennes, donc Géraldine Martineau et Isabelle Otero, Déglutis, ça ira mieux. Voici Tanguy Pastureau. Oh,
enfin,
il est là.
Oui, mais il est là, mais il est triste ce midi.
Oui, et même un peu plus que d'habitude. Hein. C'est dire, parce qu'au quotidien, je suis plus névrosé que Loana et Jean-Pierre Bacri réunis si on l'avait retiré le côlon alors qu'ils étaient venus chez le docteur pour une verrue plantaire. Oui, je suis triste parce que je vais vous quitter, les amis, pour des choses aussi futiles que le soleil, l'océan, les merguez végétales, les mots mêlés et le sable, qui essayent toujours de rentrer dans les fesses, comme un ami rencontré un soir et à qui on n'avait pas précisé qu'à la base, on cherchait plutôt quelqu'un pour discuter. C'est notre dernière émission de la saison ensemble, et peut-être la dernière tout court, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Trop de spritz à 3 grammes, on plonge depuis l'arrière du bateau en hurlant « Je suis une dorade !» Seulement à l'arrière du bateau, il y a l'hélice, et on finit en sushi pour les poissons. Pour une fois que ce serait dans ce sens-là, ça ne serait que justice. Après, le problème, c'est que pour allonger un cadavre humain sur du riz, il faut quand même un sacré paquet de riz. Or, l'été, on manque de riz à cause des types sur les marchés qui écrivent les prénoms sur les petits grains. Ah bah, je peux vous dire que quand vous appelez Pierre-Alexandre, ils font la gueule. Ce sont des gens qui rêvent que tout le monde s'appelle Enzo. Quand nous nous reverrons à la rentrée, nous serons désirables, bronzés, même Alexis Le Rossignol et Agnès Hurstel, nos chroniqueurs pâles et chétifs, qui au Spring Break de Cancun passeraient pour des Ashkenaz sous Xanax demandant au DJ du Leonard Cohen. Seront tellement mat de peau qu'à l'entrée des boîtes, on leur dira qu'ils n'ont pas les bonnes chaussures. C'est le nom de code dans le milieu de la night quand on veut signifier à quelqu'un qu'il est noir. Hein. C'est donc une déchirure, mes loulous, puisque nous sommes comme les trois mousquetaires s'ils avaient pris en plus quatre intérimaires pour les aider dans le boulot. Liés pour la vie
vie. Mais c'est la combinaison de nos talents qui a mené à cette réussite insolente, qui fait dire à Vincent Moscato d'RMC, putain, quand même, ils nous ont bien niqué. Ou à Stéphane Bern de RTL, diantre, je m'évanouis que Nicolette Taverneau m'apporte des selles. Parce que, faisons le bilan, mais quelle saison! La bande originale est l'émission qui aura marqué une génération, comme l'invention du Telex aura marqué celle d'Alain Duhamel, la création des signaux de fumée, celle de Jean-Pierre Elkabbach. On est premier sur les CSP+, les 35-50 ans, les enfants des 35-50 ans que leurs parents battent s'ils changent de station, les fans de Riyad Sattouf qui viennent nous voir 16 fois l'an, et les manchots, parce qu'ils n'arrivent pas à passer sur Europe 1, comme d'ailleurs ceux qui ont des bras. Mais le souci quand on est numéro 1, c'est que ça met la pression, c'est pour ça que Raphaël Glucksmann est toujours si détendu. Et la saison prochaine sera sans doute celle de notre chute, mais on s'en fout parce qu'on tombera ensemble, comme les cheveux du prince William. Oui, oui, je sais, moi qui fais des blagues sur les cheveux, ouais. C'est comme si Gad Elmaleh parlait de ce plaisir solitaire que représente l'écriture. Quelle saison ça a été. On a reçu les plus grands, Gérard Depardieu, Benoît Poulvord, mais aussi des gens qui n'ont pas de cirrhose, comme, bon, j'ai pas d'exemple, on a eu beaucoup d'acteurs. Ah bah si, Kev Adams. Ah bah oui, mais c'est pas un acteur. On a eu José Dayan, hein, qui nous a parlé de son sujet préféré, José Dayan. Sabine Azéma et Dussolier pour le film Tanguy le Retour, ce navet qui a réuni 700 000 spectateurs, 700 000 cons. On a eu Laurie Tillman et Camille Lacour, deux personnes hyper sexy. S'ils font un gosse, le fœtus pose directement à la sortie de l'utérus pour Jacques Addy, avec un petit polo et son cordon ombilical en écharpe. Merci Nagui.
C'était une bonne réponse. Je sais pas.
Formidable.
Je dérape.
Je prends.
Vous avez, c'est incroyable, vous avez des souvenirs précis de toutes les émissions, vous.
Mais oui, mais parce que cette émission, ce sont des moments à part dans la vie de France Inter. On a quand même reçu Dave pour un livre de cuisine. Dave, 50 ans que la mèche qui lui tombe sur les yeux fait qu'il a le même champ de vision que Ray Charles en 67. Résultat, dans la tarte quetch, il fout du poivre. Un livre de cuisine. On a eu Stéphane Plaza, hein, à l'accueil d'Inter. Ils n'ont pas voulu le laisser entrer, pas parce qu'il est trop populaire, non. Parce qu'ils ont cru qu'il venait vendre la maison de la radio à la découpe. 60 millions d'euros d'économie, il faut faire. Les stars se mobilisent. Eddy de Préto a mis aux enchères ses vêtements au profit de Radio France. Il les a vendus 10 centimes au service propreté, avec qui font les vitres. Hein. On a eu François-Xavier de Maison, hein, pas le même jour que Plaza, sinon l'autre aurait été trop excité. Les meilleurs sont passés ici. La preuve, aujourd'hui, on reçoit Andréa Bescon et Éric Métayer, qui seront au Festival d'Avignon, ce qui est l'apanage des plus grands, puisque j'y serai moi-même, du 10 au 19 juillet, au Théâtre de Paris. Hein, dans le off. Le off, c'est comme le in, sauf que les mecs sont éteints. Hein, trop de rosé, trop de chaleur, ils arrivent sur scène, vomissent, s'en vont, et là, le public dit génial cette performance expérimentale, alors que les types sont dans l'état d'Olivier de Kersauzon à l'heure de l'apéro, donc tout le temps. Il y aura aussi Alexis Le Rossignol à Avignon, je tiens à le préciser. Non. Alors, très bon bilan donc pour l'émission cette saison. Hein, on n'en revivra pas deux dès comme ça, hein, malheureusement. Donc là, nous allons nous quitter. Au revoir, Nagui. Au revoir, Daniel Morin. Tu aurais été patient, mon ours. Hein. On s'est tellement moqués, tous. Daniel Morin, il faut le savoir, est le terme le plus prononcé sur l'antenne de France Inter. Après Vivre Ensemble et Je te ken ma lobsa, parce que la station a reçu beaucoup de rappeurs hein, cette année. Et je ne partirai pas sans avoir une pensée pour tous ceux qui nous écoutent et n'ont pas la chance de partir en vacances. Donc simplement, je voudrais leur dire, bah alors, qu'est-ce que vous avez branlé, hein? Il fallait bosser, faire rentrer le brosouf. Il fait comment, Daniel Morin? Bah deux chroniques par jour plus une hebdo. Il est à fond, c'est le Macron de la radio. Hein, j'essaie de faire repasser le terme Daniel Morin devant Vivre Ensemble et Je te ken. Daniel Morin. Bravo. Daniel Morin. Allez, bel été, à bientôt.
Merci, Tanguy Passion. J'arrête pas de dire c'est la dernière, mais évidemment, nous revenons, même pas en septembre d'ailleurs, hein, je crois que...
Fin août. Non, ça a été repoussé.
C'est octobre cette année.
Ouais. Mais aussi, on est en fin de vie, l'émission est
en fin
de vie.
Ça sera la dernière semaine d'août, je crois, le
26 août.
4, 26, ah, t'as noté toi.
Ouais, lundi 26,
très bien.
À 13h.
Oui, oui. Note, Leïla, tu détestes arriver en retard.
Oui, c'est vrai.
Mettre son réveil.
Andréa Bescon et Éric Métayer, quand vous avez décidé de d'écrire un spectacle après les chatouilles, il fallait... Vous êtes posé la question de savoir quel était, ou alors le sujet s'est imposé, ou vous vous êtes dit, est-ce que l'on veut continuer d'être à la fois dans le spectacle, à la fois aussi dans le divertissement, quand il y a quelques secondes degrés quand même qui se glissent, et dans l'utilité de ce que vous voulez, c'est-à-dire changer la société.
Oula,
bah, si.
ça peut être prétentieux.
Non, mais c'est quand même la vérité.
Je sais pas si on s'est posé la question, Eric, en fait.
Non, je crois que c'est venu directement. Je crois que les sujets nous parlent. Et c'est vrai que...
Oh. Tom avait raison tout à l'heure. Les sujets des spectacles que vous faites, vous voulez changer les choses. C'est pas uniquement faire du spectacle.
Mais en tout cas, on a envie de parler des dérives, enfin des choses qui... nous mettent en colère ou nous font souffrir pour X raisons ou on se dit mais mince, il y a un vrai déséquilibre quelque part quoi.
Le problème c'est qu'il n'y a pas une échelle de Richter ou d'échelle de valeur des scandales et des mots dans la société. Donc comment choisir? C'est comme pour être parrain d'une association, comment choisir une plus qu'une autre?
Non, mais là je pense qu'effectivement il y a quand même la partie du vécu qui rentre en jeu. On est touché par quelque chose, mais bon, ce qui me fait rire quand même, c'est qu'à chaque fois on essaie de partir plutôt d'abord vers la comédie en disant voilà, puis tout d'un coup on dit bon alors le sujet qu'est-ce qu'on va prendre, puis à chaque fois on part sur des sujets là on est en train d'écrire sur le prochain film. Et c'est vrai que c'est pareil, on va faire une grosse comédie, puis ça bifurque vers quelque chose de mélangé.
C'est quoi alors? C'est la peur de la vacuité? C'est la peur de se dire on va pas tomber dans le facile?
Non,
je crois que c'est un peu naturel.
L'utilité
en fait.
Aussi.
Oui, l'utilité, et puis c'est une envie vraiment d'être dans la vie. Et alors c'est vrai qu'on est plus accroché par des réalisateurs, là je parle de cinéma, mais des réalisateurs qui sont dans la vie, comme Ken Loach. Là on a revu il y a deux sur France 2.
On est allé voir Sorry We Missed You
à Cannes, c'est phénoménal. Et on a revu j'ai revu le Van Gogh de Piala. C'est fabuleux la façon de travailler, de jouer, de cette chose tellement dans la vie, et c'est ce qu'on a envie au théâtre ou au cinéma de donner.
Est-ce que vous avez eu chacun vos Molières pour vous féliciter, vous récompenser de vos différents spectacles? Est-ce que le must, entre guillemets, le bonheur, serait de réussir à changer la loi?
Oh, c'est évidemment toujours une vraie satisfaction quand on a l'impression d'œuvrer en faveur de l'amélioration d'une société. On œuvre comme beaucoup œuvrent. Après, c'est sûr que nous, notre arme, c'est l'art. Enfin, l'art, voilà, en règle générale, ce théâtre, cette danse, etc. Et le fait de pouvoir aussi divertir tout en réfléchissant. Enfin, en tout cas, nous, on veut juste pointer un sujet et faire que le public sorte du théâtre en se posant certaines questions et peut-être justement en communiquant avec les proches et voir même prendre des décisions. Alors politiquement aujourd'hui il y a tellement de combats. Je ne sais pas si on pourra apporter quelque chose, si on pourra apporter notre petite pierre à l'édifice de l'amélioration de comment mourir en France, mais en tout cas on a envie de poser la question.
Ou comment rendre les crimes imprescriptibles aussi. J'imagine que la présence de vos enfants vous guide aussi dans les sujets. Est-ce que par exemple le fait de laisser la planète dans l'état dans lequel elle est pour les générations futures, est-ce que l'écologie est l'un des sujets aussi qui vous touche?
Ouais, c'est très présent, mais c'est très présent,
j'aurais presque envie de dire que c'est par moments trop présent parce que on le voit avec notre fille, elle a des angoisses là-dessus. Non, mais elle est très très militante.
Elle a fait grève le vendredi.
Elle est vraiment très militante.
Voilà, elle a monté une pétition pour avoir un peu de couleur dans la cour. De l'école. Donc
elle a fait signer à tous les élèves.
7 ans et demi, cette année dernière.
Elle a fait signer à tous les élèves, à tous les profs.
Elle a dit qu'elle allait faire le signer. Mais c'est sûr qu'ils sont sensibilisés. Maintenant, on fait quand même assez attention parce qu'on se rend compte que ça a généré pas mal de problèmes de sommeil et tout. La question carrément de pas l'apocalypse, mais quand même des phénomènes naturels.
Quand on voit qu'en 2050, on va tous mourir. Oui,
donc on essaie un peu de se calmer sur la façon dont on écoute les infos et dont on en discute en tant qu'adulte, en fait.
Déglutis, ça ira mieux. C'est une pièce qui se joue du 5 au 28 juillet, d'abord au Théâtre du Balcon à 22h30. Isabelle Otero, Géraldine Martineau, et j'imagine, et on en reparlera ensuite sur une scène parisienne. Mais d'abord, voici Agnès Hurster. Oh oui.
Chers parents, je vous écris ce matin parce que je pense à vous, à votre souffrance, à vos larmes, à tous ces stérilés partis trop tôt, à vos regrets pleins de lait caillé. En cette période de fin d'année, vous êtes victime d'un sort monstrueux, la fête de l'école et autres kermesses désespérantes. Et je sais qu'à la base, vous le vouliez, cet enfant. Même que vous avez accouché au bluet et que vous avez dit « Non, moi, ce sera sans péridurale, merci. » Et que vous avez accouché en deux respirations au jack, comme ça, sans péter. Et qu'à l'été, c'était super. Et que votre enfant, il est super. Même si vous dites à tout le monde que vraiment, vous espérez qu'il n'est pas surdoué parce que ça isole, mais qu'au fond, vous en rêvez qu'il soit surdoué. Bref, je sais que vous l'aimez, je vous crois. Mais ce week-end, vous allez vivre un enfer. Donc à toutes celles qui se sont senties obligées de faire un gâteau 3 œufs pour Sylvie, l'insupportable maîtresse qui vous hait parce que vous êtes en retard chaque matin, amen. À toutes celles qui tiennent le stand de pêche à la ligne samedi avec une énorme gueule de bois, amen. À celles qui sont enceintes d'un deuxième, mais qui vont quand même se taper d'aller applaudir le premier à son spectacle de danse de merde, parce que disons-le, c'est le vôtre, donc il vous émeut, mais ils ont tous l'air complètement demeurés, on dirait moi à la gym suédoise. Amen. Et aux parents célibataires qui sont des héros, amen. Parce qu'on sait, hein, vous avez tellement peur que votre enfant soit mis au placard, que vous vous retrouvez à faire bonne figure, et que vous avez signé pour tenir le stand de Chamboultou, où vous allez devoir ramasser 322 fois les boîtes de conserve qui ne seront jamais envoyées au Darfour avec ces connards de CM1 qui, parce qu'on peut le dire, les CM1 sont des connards, hein, ils sont déjà pubères, plus sexués que votre amoureux, mais c'est ça, c'est les perturbateurs endocriniens, hein. Le CM1 en 2019 est un être qui sait déjà ce qu'est un boukake, et ça c'est la photo perturbateur endocrinien. Et si dans cette école, sous le préau à droite, à la fête de l'école, il y a un stand repas du monde, alors que votre enfant est scolarisé dans le 9e arrondissement de Paris et que donc tous les enfants de l'école sont blonds, voire châtain clair, au pire, et aux yeux bleus, riez fort et dites quelque chose, car cette fête de l'école est absurde. Chaque enfant va apporter sa spécialité culinaire. On va voyager où ? On va aller de la choucroute à la ratatouille en passant par la crêpe de Plougastel.
Et alors ?
Quelque chose cloche. Si, peut-être vous êtes dans une école où on va vous demander de vous déguiser. Là, c'est votre limite. Là, vous devez vous lever et dire non. Même pas un petit nez rouge, même pas les oreilles de mini. Je veux dire, la vie est dure, vous avez déjà galéré à avoir un CDI, vous avez galéré à atteindre l'orgasme, vous avez galéré à retrouver un périnée tonique. Ne vous déguisez pas à la fête de l'école. Votre enfant ne vous aimera pas plus. Ayez du respect pour vous-même. Et c'est valable pour le maquillage, hein. Un petit papillon sur la figure de Suzanne, 4 ans. C'est adorable. Un papillon sur vous alors que c'est la canicule, c'est très grave. Voilà, j'ai même pas de vanne, c'est très grave. Ça va couler sur votre robe Cézanne à 200 balles, c'est dommage. Voilà, à tous ces gens, voilà, j'aimerais envoyer du courage, ça va aller. De toute façon, vous n'avez plus le choix, hein. Votre enfant ne rentre plus dans votre congélo. Et Sylvie, la maîtresse connasse non plus. Allez à cette fête de l'école. Ayez des discussions de merde avec des parents d'élèves qui ne seront jamais vos amis. Souriez à la dirlo. Protégez vos enfants de la course en sac, parce que c'est très dangereux. Respirez par le ventre. Et sans péter. Amen. À l'année prochaine.
Merci, Yannet sur scène. France Inter, la bande originale
avec Nagui. La contraception.
À Avignon, non seulement il y a donc des glutis, ça ira mieux. Je vous pose la question, est-ce qu'une salle parisienne accueillera cette pièce à la rentrée?
Nous,
ou est-ce qu'Avignon sert à ça, justement?
Ouais, on se dit, voilà, on recommence à zéro pour Avignon et on verra.
Apparemment, c'est pas mal parti pour le 12e arrondissement. Oui,
mais ça veut dire qu'avec votre notoriété, vous n'avez pas voulu déjà démarcher des théâtres parisiens, ou même malgré votre notoriété, c'est encore toujours difficile de convaincre des producteurs?
On veut d'abord créer, voir le public, voir ce que ça donne, et puis après, voilà, c'est la légitimité passe par là, en fait.
Bon, il doit en avoir marre à Avignon qu'on aille tester les choses là-bas.
Est-ce qu'il y a une forme de superstition aussi en disant c'est notre manière de travailler, ça nous a réussi, on continue comme ça?
Non, je pense que c'est surtout que les chatouilles, quand on l'a présenté, on a mis 2 ans quand même à la trouver la salle. Hein, oui. Donc là, sur un sujet pareil, j'espère qu'on va faire moins. Mais c'est comme ça. Je trouve qu'on a besoin de se roder, parce que le spectacle, il est vraiment les gens qui vont le voir à Avignon vont vraiment le voir fini.
Non, c'est un spectacle terminé.
On a beaucoup travaillé, monsieur. Allez. Au contraire de certains. Donc
faut faire attention, parce que c'est un peu quand même le vous êtes quoi, la majeure compagnie d'Avignon, à vous deux, puisqu'il y a 3 spectacles, oui, qui se passeront à Avignon. Il y a évidemment, donc je l'ai dit, Déglutis, ça ira mieux, qui sera au Théâtre du Balcon du 5 au 28. Du 5 au 28 juillet, Les Chatouilles, donc interprété par Déborah Moreau, se jouera au Théâtre du Chêne Noir, toujours évidemment à Avignon. Et toujours à Avignon, du 5 au 28 juillet, c'est vous, Eric, qui serez avec Un Monde Fou, que vous reprenez au Théâtre La Condition des Soies.
Bah oui, maintenant je lâche un peu Andrea. Maintenant qu'on se connaît bien, je me dis je peux y aller, le jouer, mon spectacle que j'ai pas joué à l'époque.
À 32 personnages.
Oui, il y a 32 personnages, 32 comédiens.
La
schizophrénie.
Non, mais elle y est, la schizophrénie dans Déglutis, ça ira mieux. Elle est évoquée, en tout cas. Et elle est totalement présente aussi dans...
C'est vraiment un jeu très, très particulier. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que je l'ai connu à la Ligue d'impro, de faire plein de personnages. Mais là, c'est très, très technique, tout en gardant la comédie. Parce que c'est c'est de la comédie. C'est vraiment... pour s'amuser, rire, délirer, mais c'est vraiment très très technique. Je suis très content de le retrouver, le spectacle.
Ça parle aussi d'une certaine accélération,
de la
condition, de comment on se parle, de la hiérarchie aussi. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit qu'une comédie basique.
C'est voilà comment ça... on travaille sur les spectacles. C'est-à-dire, moi, je m'amène. Bien fait. Et si on mettait de l'euthanasie, donc. C'est là, je voulais. Voilà, c'est un peu comme ça.
C'est ça, les vrais couples.
Pourquoi le titre Déglutis, ça ira mieux? C'est évoqué à un moment donné dans le texte, dans la pièce, avec tous les différents symptômes, les différents problèmes. Mais pourquoi avoir choisi celui-là en particulier?
En fait, c'est même pas forcément par rapport aux symptômes que génère la maladie. C'est. Pour nous, c'était une façon de physiquement de comment on avale une mauvaise nouvelle, comment on la reçoit. En fait, elle reste d'abord un peu coincée dans la gorge comme ça, puis on peut pas vraiment s'exprimer. Il y a une espèce de moment de torpeur, de sidération, et puis soit on respire, soit on avale, et puis on va essayer de trouver les bons mots et agir éventuellement. Et voilà, c'était pour ça ce titre en fait.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour les fameux programmateurs musique de France Inter. Désolé pour Andréa Bescon, désolé pour allez, la musique en général. Mais ce matin, Éric Métayer était vraiment, vraiment en mode promo intégrale. Il a même euthanasié la musique. Oh, en même temps, Nagui, ça mériterait un petit taratata, non? Désolé pour les années 80 qui aujourd'hui ont été mises à l'honneur par Alexis Le Rossignol. Alors vous me direz pourquoi être désolé si on rend hommage? Bah si c'est Alexis Le Rossignol qui te rend hommage, voilà, tu t'excuses. En preuve, la photo sur le site de l'émission. Désolé pour nos auditeurs qui nous ont contactés pour participer au jeu que Nagui va lancer en septembre sur France 2 suite à cette émission. Jeu qui s'intitulera « Tout le monde joue avec la mort ». Alors, c'est vrai les gars, les auditeurs, vous avez tous le bon profil apparemment. Mais pour vous inscrire au jeu, faudra déjà passer la canicule. Voilà.
Merci beaucoup, Andréa Bescon.
Merci beaucoup.
Éric Métayer d'être venu nous présenter Déglutis, ça ira mieux, joué par Isabelle Otero et Géraldine Martineau du 5 au 28 juillet au Théâtre du Balcon. Avignon à 22h30, il fera frais. On vous souhaite un très bon été. Vous retrouverez l'équipe au grand complet à partir du 26 août. En direct, évidemment, sur antenne. Et à partir de lundi, c'est Frédéric Sigrist qui vous présentera Blockbuster, cette émission.
De 11h à midi.
Exactement, qui vous replongera dans les hits du cinéma, des séries et des albums. Et là, maintenant, c'est un spécial jeu des 1000 euros auquel tu participes,
oui,
Leïla.
Absolument.
Avec Dorothée Larbat, François-Régis Gaudry, Laurent Delmas. Ce sont des duos, en fait, auditeurs et voix d'Inter, c'est ça?
Ouais, je crois. Et comme ça, on annonce. On va jouer, mais comme, voilà, je gagne toujours au jeu, donc je suis pas très, très inquiète. Et comme ça, on va pouvoir annoncer aussi le Mac de l'été. Tous les jours du mois de juillet à 18h, ouais, l'émission culturelle. Et puis surtout, un très très beau rendez-vous, tous les samedis à 10h, on fait une série musicale sur Michel Legrand. Donc j'espère que vous serez là parce que c'est magnifique.
Michel Legrand.
On sera peut-être pas là, mais on va l'écouter.
Ouais.
Le jeu des 1000 euros, c'est tout de suite en direct au studio 621, donc et en public, de 12h30 à 13h. Et ça démarre maintenant.
Bonne journée, bonnes vacances.
Ciao, merci.
Merci, merci Nagui.